Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale, une économie mondiale dont nous allons prendre aujourd'hui le pouls. Entre la plongée de l'économie russe, les problèmes brésiliens, l'accalmie de la croissance chinoise, l'économie européenne aux prises avec le suspense grec, la bonne forme relative des économies africaines et américaines, comment va l'économie mondiale? Dans quel moment économique la planète est-elle et vers où allons-nous? La guerre en Irak et en Syrie, les troubles libyens, les vagues migratoires, les difficultés à endiguer le réchauffement climatique, l'état du système financier, tout se conjugue pour brouiller la vision qu'on peut avoir de la situation économique internationale. Au cours de cette émission, nous allons donc chercher à y voir clair, à établir un bulletin de santé de l'économie mondiale avec les deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour, Jezabel Coupet-Soubéran.
Bonjour, Jean-Pierre Boris.
Jezabel Coupet-Soubéran, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez longtemps travaillé au Conseil d'analyse économique, un organisme indépendant placé auprès du Premier ministre. Vous êtes maintenant au CEPI, le principal centre de recherche sur l'économie internationale en France. Votre spécialité, c'était le monde bancaire et les systèmes financiers. Vous passez maintenant à une autre facette de l'économie mondiale. Vous dirigez la publication du CEPI qui s'appelle l'économie mondiale. Qu'est-ce que vous allez dire dans la prochaine édition qui paraît au mois de septembre?
Mais écoutez, on va essayer de mettre en avant qu'on est dans une phase d'expectative, dans une phase de transition, hein, véritablement de l'économie mondiale. Il y a finalement trois grandes zones qui correspondent à trois situations très contrastées.
On a les trois zones, c'est
d'un côté, on a les États-Unis, le Royaume-Uni, qui semblent avoir amorcé leur reprise, mais
oui,
il y a de quoi s'interroger sur la solidité de cette reprise. Ensuite, il y a l'Europe continentale, le Japon, où quoi qu'on en dise, le risque de déflation n'est pas complètement écarté. Et puis, il y a les économies émergentes, avec une situation assez contrastée, mais des économies émergentes qui croissent beaucoup moins vite qu'auparavant.
Alors, on va y revenir. Avec nous également dans ce studio, Jean-Louis Beffa. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Louis Beffa, vous êtes un des grands noms du capitalisme français. Vous avez dirigé l'entreprise Saint-Gobain, la multinationale Saint-Gobain, pendant 25 ans. Vous en êtes aujourd'hui le président d'honneur. Et vous publiez aux éditions du Seuil Les Clés de la Puissance, un livre sur l'économie internationale.
Oui, en effet, un livre sur l'économie internationale qui, lui, s'intéresse aux tendances à long terme, c'est-à-dire aux avantages comparatifs qui sont en train de s'établir sur la scène mondiale. L'enseignement principal de ce livre, c'est que désormais, après avoir eu toute une période où il y avait une domination sans contexte et sans concurrent des États-Unis, nous vivons désormais la coexistence morose d'un duopole. Le duopole entre les États-Unis, qui, je dirais, se redresse, avec toute une série quand même de faiblesses qui restent, la Chine, qui peut avoir aussi ses problèmes, mais ces deux pays sont en train de complètement dépasser les autres pays de la planète, qu'ils soient les pays émergents ou l'Europe.
Alors, nous y reviendrons bien sûr au cours de cette émission, au cours de laquelle nous allons rejoindre nos correspondants, Marie Bourreau à New York et Sébastien Farsi à New Delhi. Nous entendrons une interview d'Amadou Kane, ancien ministre des Finances sénégalais, qui conseille actuellement le président de la Banque africaine de développement. Autre interview, celle de Caroline Doremus-Mej, directrice du plaidoyer au sein de l'ONG CCFD Terre Solidaire. Jean-Louis Beffa, comment va l'économie mondiale?
Bien, l'économie mondiale, je serais d'accord pour dire qu'il y a des zones d'inquiétude, il y a des zones dans lesquelles, au contraire, on sent des éléments de reprise. Pour moi, le point n'est pas le point essentiel, comment va aujourd'hui l'économie mondiale. Ce qui m'intéresse, c'est le schéma d'économie mondiale qui est en train de se dessiner. C'est-à-dire, vraiment cette émergence, cette domination, non pas d'un seul pays, mais de deux pays, la Chine et les États-Unis, et des équilibres qui vont exister entre eux, qui pour moi ne vont pas être une guerre au sens guerrier, mais qui va être une bataille économique dans lequel, au fond, la Chine va continuer à grignoter des avantages vis-à-vis des États-Unis.
Vous voulez dire que tous les autres sont marginalisés ?
Je pense que les autres sont marginalisés si on pense qu'ils peuvent atteindre le degré d'influence économique
si
par leurs entreprises de ces deux-là. L'Inde.
On va y revenir, l'Inde, dans 30
voilà,
secondes.
On dira quelques mots, mais prenons un autre pays, le Brésil. Le Brésil va aller, mais le Brésil passe par une phase d'ajustement qui fait qu'il perd tout espoir de véritablement être au niveau des deux autres pays. De même en Afrique, l'Afrique se développe d'une façon générale. Partout, mais le pays africain sur lequel on comptait le plus pour peut-être prendre vraiment un peu de leadership, l'Afrique du Sud est plutôt en train de décevoir. Il n'y a pas de remplaçant, clairement.
Le Nigeria a les moyens,
je dirais, presque de base, c'est-à-dire qu'il a les ressources, mais entre le conflit entre la partie musulmane du pays et la partie non musulmane, neutralise complètement son influence mondiale.
Isabelle Coupet-Soubéran, vous êtes d'accord avec Jean-Louis Beffa sur cette notion de duopole Chine-États-Unis ?
Moi, il me semble que même au niveau de la Chine et des États-Unis, il y a quand même beaucoup d'incertitudes qui planent. Alors, c'est vrai qu'on a le sentiment d'une économie américaine qui est toujours plus plastique, hein, qui réagit toujours plus vite. Mais il y a vraiment, si vous voulez, des motifs d'inquiétude aux États-Unis aussi. D'ailleurs, il y a un débat qui anime beaucoup les économistes américains aujourd'hui. C'est un débat autour de la notion de stagnation séculaire. C'est assez paradoxal, d'ailleurs, parce que la zone euro, l'Europe...
Qu'est-ce que ça veut dire, stagnation séculaire ?
Eh bien, l'idée, si vous voulez, c'est que il est tout à fait possible que l'économie mondiale, en particulier que l'économie américaine ou que l'économie, que les économies européennes, s'enfoncent dans une stagnation sur une très longue période, marquée donc par un très fort ralentissement de l'investissement, un très fort ralentissement de la croissance. Et ce débat, il est très présent aux États-Unis. Donc on a un sentiment de reprise, mais avec quand même, si vous voulez, des résultats qui ont été assez décevants, hein, sur le front de l'emploi et qui ont conduit...
On le voit en France
aussi, bien sûr, mais même aux États-Unis, où pourtant on parle beaucoup de reprise. Ce sont ces résultats décevants sur le front de l'emploi aux États-Unis qui ont conduit Janet Yellen, qui dirige la Réserve fédérale américaine,
la Banque centrale américaine,
à reporter un peu, hein, sa décision de remonter les taux d'intérêt américains. Je crois qu'il y a des motifs d'inquiétude. Et quant à la Chine, on sent bien qu'il y a quand même, il y a aussi un tournant qui se joue en Chine. La Chine a réorienté son modèle de croissance vers la demande interne, et surtout il y a des déséquilibres macro-financiers qui sont latents en Chine. Il y a eu une véritable envolée du crédit immobilier. Les autorités chinoises essaient de contrôler ça de manière assez autoritaire. Il semblerait qu'elles y parviennent un peu, mais les chiffres peuvent inquiéter. On parle beaucoup aussi du shadow banking en Chine, c'est-à-dire un certain nombre, si vous voulez, d'entités financières qui réalisent des opérations financières qui, notamment, sont exposées à un risque de crédit sans être du tout encadrées comme des banques. Donc, bon, il y a des motifs d'inquiétude un peu partout. Je veux pas jouer les Cassandres, hein, mais il me semble...
Jean-Louis Beffa, vous n'êtes pas aussi inquiet ?
Non, je ne suis pas inquiet sur le fond.
Sur la Chine,
je dirais. Alors, sur la Chine, je suis d'accord sur cela. Sur la spéculation immobilière, des mesures très brutales ont été prises par le nouveau président, et je crois qu'elle est quand même bien, bien moins grande qu'elle n'a été précédemment.
La spéculation immobilière.
Je pense que ce qui est caractéristique de la Chine, c'est d'abord une capacité à détecter les problèmes très vite, et deuxièmement, à un gouvernement évidemment très centralisé, qui, au fond, n'a tenir à aucun obstacle d'ordre politique dans la mise en œuvre et qui donc a une capacité de mise en œuvre immédiate dès que le problème a été repéré. C'est également la même chose, à mon avis, pour le shadow banking, où la banque centrale chinoise a pris rapidement des mesures. Et puis, je ne suis pas, au fond, inquiet d'un pays qui, pour son financement, ne dépend pas de l'étranger. Ce qui est dangereux, ce sont les pays qui ont des balances de paiement qui sont négatives et qui dépendent de l'étranger pour se financer. Quand on prend la décision soi-même, on peut parfaitement faire tout ce qu'il faut pour soutenir des entités, créer des caisses de défaisance, etc. Donc je pense que les 3 milliards de réserves chinoises sont une garantie de non-crise financière.
Isabelle Coupet-Souberan.
Oui, je suis assez d'accord avec l'idée que les autorités chinoises sont extrêmement attentives à leur déséquilibre macro-financier et sont capables d'activer des instruments dits macro-prudentiels, c'est-à-dire des instruments qui permettent de prévenir, si vous voulez, la formation d'un risque global. D'un risque systémique. Il n'en demeure pas moins que la Chine a quand même sérieusement réorienté son modèle de croissance vers l'intérieur. Et ça veut dire que la Chine sera demain, sans doute, beaucoup moins tournée vers l'extérieur, davantage tournée vers elle-même, et de ce fait, ce sera moins
la locomotive
mondiale, exactement. Il me semble qu'on peut on peut voir cela.
Alors, Jean-Louis Béfa, un mot.
Je suis quand même extrêmement frappé dans la relation de la Chine avec l'extérieur par le maintien d'un excédent commercial qui reste significatif et permanent. Et par conséquent, la relation avec l'extérieur, elle continue quand même à être très vivante. Simplement, la Chine est en train de fournir au monde des produits d'une beaucoup plus haute qualité qu'auparavant. C'est-à-dire que la Chine va fournir des TGV, va fournir des avions, etc. Et en fait, elle va venir attaquer les points forts de l'industrie occidentale.
Jean-Louis Béfa, après la Chine, l'Inde qui serait en train de dépasser la Chine en rythme de croissance. L'économie indienne connaît une forte progression, 7% cette année, plus que la Chine en principe. Pas sûr pourtant que ça fasse beaucoup d'emplois, car dans ce pays, les niveaux de qualification sont très bas. Le gouvernement Modi essaie de rattraper ce retard en formant des millions de jeunes qui arrivent sur le marché. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs de Sébastien Farsi à New Delhi.
Je ne suis pas très bon en mathématiques et les calculs sont plutôt difficiles à faire, mais les professeurs nous aident bien, c'est encourageant.
Le jeune Rajesh Kumar, qui est fraîchement diplômé du bac, vient de rejoindre une formation pointue pour apprendre le maniement de machines qui peuvent tailler des pièces de fer ou d'aluminium en deux ou trois dimensions. Après 3 mois de formation intensive, une dizaine d'étudiants comme lui de ce centre de l'entreprise ILFS pourront travailler dans une usine automobile. Jalesh Kumar est le responsable académique.
Dans les usines, ces machines sont maintenant complètement informatisées. Pour obtenir cette forme, le candidat doit d'abord préparer un graphique, faire des calculs pour les rentrer dans l'ordinateur.
Cette compagnie est pionnière dans la formation professionnelle, un domaine encore embryonnaire en Inde. Dans ce pays, seulement 4,5% de la main-d'œuvre a reçu une quelconque formation qualifiante, ce qui entraîne une faible productivité et du chômage. Le gouvernement vient de créer un ministère dédié à cette question et va lancer la formation de 2,4 millions de jeunes, dont une partie sera rémunérée, comme l'explique Pratik Agarwal du Centre National pour la Formation.
Parmi ces 2,4 millions de candidats, 1,4 million seront des jeunes qui suivront toute la formation et 1 million seront des travailleurs qui ont déjà acquis un savoir dans le milieu informel. Pour ces derniers, nous certifierons leurs compétences afin de leur offrir un diplôme et de faire reconnaître ce savoir.
Une vraie révolution culturelle est en train de s'opérer en Inde, où traditionnellement la caste d'une personne détermine sa fonction dans la société. Mais dans cette précipitation, les centres de formation indiens sont plus intéressés à faire du chiffre que de la qualité. C'est ce qu'estime Grégory Randolph, le directeur adjoint du centre de recherche Just Jobs Network.
Jusqu'à présent, toute l'attention est portée sur le nombre de personnes formées et non sur l'importance de leur offrir une formation qui durera pendant toute leur carrière. derrière. C'est réalisé à la chaîne et après 3 mois, ils placent l'étudiant et c'est terminé. Or, pour la plupart, c'est le premier emploi en entreprise. Donc, il faut leur apprendre comment se comporter. Le résultat, c'est qu'ils ne restent pas longtemps à leur poste.
Selon ce chercheur, de nouveaux secteurs comme celui des énergies renouvelables, qui devraient exploser en Inde dans les années à venir, représentent une opportunité d'emploi extraordinaire si la main-d'œuvre est formée à temps.
Un reportage de Sébastien Farsi à New Delhi. Jean-Louis Beffa, c'est symptomatique des fragilités indiennes, cette formation
un peu... Cette formation est à l'évidence un élément positif, mais qui n'est pas significatif par rapport aux points négatifs structurels indiens, qui sont de nature et qui relève pas mal du système politique. D'abord, l'insuffisance complète des infrastructures quand on les compare avec la Chine. Si vous prenez les deux grandes villes du sud, Chennai et Bangalore, franchement, il faut passer, faut voir l'allure de l'autoroute qui les relie. Ça n'a aucune comparaison avec la Chine. Deuxièmement, l'énergie, qui est évidemment totalement déficiente. La conséquence de ces deux points, la nécessité d'importation importante d'énergie, et deuxièmement l'incapacité de pouvoir exporter par déficience d'infrastructure, fait que l'Inde a un déficit commercial significatif, que cela entraîne la nécessité pour l'Inde, pour se développer, de faire appel aux capitaux étrangers, qui peuvent partir, etc. Et donc, malgré des talents indiens, notamment dans le domaine des softwares à Bangalore, tout simplement parce que là, le produit peut être expédié par satellite, et non pas en passant par des routes. En dehors de cela, l'Inde, et en particulier sa partie paysanne, ne progresse en aucune façon au niveau de la Chine. Et donc, c'est une croissance, je dirais, partage de léopard. Il y a des endroits en Inde qui progresse. La Chine, elle, est capable de faire progresser l'ensemble du pays.
D'accord, Isabelle Coupé-Soubéran. L'Inde est quand même beaucoup moins entraînante pour l'économie mondiale que la Chine.
Je nuancerai un petit peu. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec les gros défis structurels, les défis de politique économique, de politique structurelle qui se présentent en Inde. D'ailleurs, dans l'économie mondiale à l'automne, il y aura un bel article consacré à l'économie indienne.
La publication du CEPI que vous dirigez.
Tout à fait. Vous avez raison, Jean-Louis Beffa. Il y a vraiment des défis énormes en matière d'infrastructure, ferroviaire, routière. Vous parliez des problèmes énergétiques. Il y a 400 millions d'Indiens qui n'ont toujours pas accès à l'électricité. Moi, je ne sous-estimerai pas l'aspect capital humain qui était au cœur de votre reportage. L'illettrisme touche encore à peu près un tiers de la population indienne. Donc, il y a des défis énormes de ce côté-là. Il y a un autre défi aussi du côté du système financier indien. Pour le moment, le système financier indien est sous-dimensionné pour mettre en œuvre ces investissements dont l'Inde a besoin. Et il ne s'agit pas non plus, si vous voulez, de mener des politiques tous azimuts de développement financier qui souvent emmènent à des déséquilibres importants. Alors l'Inde a pour elle, toutefois, et je terminerai sur cela, d'avoir été peut-être plus mesuré, plus pondéré dans son décollage. C'est une économie qui n'a pas décollé aussi vite, effectivement, que la Chine, qui avance plus lentement, peut-être plus sûrement.
Alors, est-ce qu'on est dans une phase encore de mondialisation? Parce que vous parliez de duopole. Est-ce que la mondialisation de l'économie internationale se poursuit, Jean-Louis Beffa?
La mondialisation se poursuit absolument. Maintenant, ce n'est plus une mondialisation qui oppose des entreprises avec des règles du jeu comparables. À une époque où régnait, par exemple, un système américain, un capitalisme américain, qui donnait le ton. Aujourd'hui, ce sont des batailles entre les pays basées sur leurs champions nationaux, qui sont leurs grandes entreprises nationales. Donc, on n'a pas encore, d'ailleurs, tiré toutes les conséquences, notamment dans les réglementations, et en particulier au niveau européen, du fait que désormais, ce sont des batailles entre États, et non plus des batailles entre entreprises.
En deux mots, Isabelle Coupé-Soubéran.
Moi, je parlerais plutôt de régionalisation. J'ai l'impression que les forces en présence vont plutôt dans le sens d'une régionalisation avec des mouvements par endroits, quand même, de fragmentation. Donc la mondialisation recule un peu.
Eh bien, c'est le dernier mot de cette première partie des Codiciers Éco d'ailleurs. Nous nous retrouvons dans 3 minutes après un flash d'actualité. À tout à l'heure.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Lumière.
Deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, nous établissons le bulletin de santé de l'économie mondiale entre le ralentissement chinois, le recul russe, la langueur européenne et le dynamisme américain. Où va l'économie mondiale? Deux invités, Jean-Louis Beffa, président d'honneur de la multinationale française Saint-Gobain, et Gisabelle Coupet-Soubéran, maître de conférence en économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans la première partie de cette émission, nous avons surtout parlé de la Chine et des faiblesses indiennes. S'il est une région du monde qui a bénéficié de la croissance chinoise au cours des dernières années, c'est l'Afrique, en particulier grâce à l'explosion du cours de ses matières premières. Les dirigeants africains veulent aujourd'hui compter sur leurs propres forces. C'est ce qu'Amadou Kan, ancien ministre des Finances du Sénégal et aujourd'hui conseiller du président de la Banque africaine de développement, la BAD, a expliqué ces derniers jours au micro de Stanislas Daïchimié.
L'Afrique croit en l'Afrique. Et c'est en cela que l'initiative que la Banque africaine de développement a impulsé, c'est le projet Africa 50, qui vise à mobiliser des ressources à partir du monde entier pour financer le gap d'infrastructures dont l'Afrique aujourd'hui souffre. Nous avons 95 milliards de besoins de financement annuel d'infrastructures d'après les calculs de la BAD. Seuls 43 à 45 milliards sont financés. C'est déjà ça. Mais il manque 50 milliards qu'il faut trouver. Et la Banque africaine de développement a lancé ce projet d'Africa 50 pour mobiliser 3 milliards sur fonds propres, en sachant que de par l'expérience qu'elle a acquise, 1 dollar financé par la BAD a réussi à attirer environ 9 dollars. Ce qui fait que les 3 milliards, on estime qu'ils pourront financer 30 milliards d'investissements. Il fallait commencer. Et le 25 mai dernier, en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, s'est tenue à Abidjan l'Assemblée générale constitutive d'Africa 50.
L'une des sources de financement encore très peu exploitée, c'est la bourse.
Beaucoup d'études ont montré l'imbrication entre développement du marché des capitaux et développement économique. Aujourd'hui, la capitalisation boursière de toute l'Afrique fait 1090 milliards de dollars. Là où la Chine, à elle toute seule, est à 9 000 milliards de dollars. Les États-Unis, 26 000 milliards de dollars. Donc nous sommes encore loin. Mais les performances annuelles réalisées par nos bourses sont des performances remarquables. On est entre 50 et 110% de croissance de la capitalisation.
Alors c'était Amadou Kan au micro de Stanislas Daïchimié. Jean-Louis Beffa, est-ce que vous pensez que l'Afrique peut être un acteur important de la croissance économique mondiale dans les années à venir?
Je crois que véritablement la réponse est oui. Et j'avoue que en demandant aux entreprises d'être sélectives pour les pays qu'elles choisissent, je pense qu'il y a des zones très intéressantes pour investir en Chine. Il y en a une notamment dont on parle peu en France, et je donnerais volontiers à des industriels le conseil de le regarder de très près. Il s'agit de l'Éthiopie. L'Éthiopie a un régime stable, assez stable. L'Éthiopie a une main d'œuvre très très bon marché, et donc l'Éthiopie est tout à fait un lieu pour produire les produits que avant par exemple produisait la Chine. Et en fait, ce sont des entreprises chinoises qui aujourd'hui, en même temps qu'elles vont au Bangladesh, on en parle beaucoup plus, vont en Éthiopie. Alors il y a aussi des entreprises qui ont des matières premières, mais ça fait longtemps qu'elles ont des projets, qu'elles ont un peu de difficulté à les mettre en œuvre. Je songe bien entendu au Gabon, également à des pays comme le Nigeria, ou le Congo, etc. Voilà. Donc, les problèmes de l'Afrique ne sont pas des problèmes de matières premières. Ce sont même pas des problèmes insolubles de formation. Ce sont avant tout des problèmes de gouvernance.
Gisabelle Coupet-Soubéran.
Oui, je suis assez d'accord. Ça rejoint d'ailleurs une étude récente là, parue au mois d'avril, réalisée par des économistes de la Deutsche Bank, qui remettait un petit peu en question, si vous voulez, l'analyse courante sur l'économie africaine. On a beaucoup associé le décollage des économies africaines à la vigueur de l'économie chinoise, ce qui rend évidemment ces économies africaines très dépendantes de ce qui va se passer en Chine. Et si la Chine a ralenti, eh bien les économies africaines ralentiront elles aussi. Mais cela étant, justement, ce que mettait en avant cette étude, eh bien c'était les aspects très positifs, à savoir une amélioration des politiques économiques, des institutions plus solides, un environnement politique plus stable, enfin du moins à certains endroits. Et il voyait, si vous voulez, une sorte de déplacement du centre de gravité de l'Afrique vers l'Afrique de l'Est. Donc ça correspond tout à fait à ce que disait Jean-Louis Beffa. Il mettait en avant des pays comme l'Éthiopie, comme le Kenya, comme le Mozambique, qui sont moins riches en matière première, mais qui du coup, eh bien, sont un peu moins victimes, vous savez, de la malédiction de la rente, ont été obligés de diversifier davantage leurs économies, et qui pourront être ainsi pour l'avenir beaucoup plus moteurs.
Alors, à la fin de la première partie, quand je vous interrogeais sur la mondialisation, vous disiez non, on va vers une régionalisation des économies mondiales. Est-ce que l'Afrique peut avoir une carte à jouer dans ce nouveau monde moins mondialisé, plus régionalisé?
Je pense certainement que l'Afrique aura des intérêts et a déjà intérêt à se structurer en institutions africaines, la banque qui a été citée tout à l'heure est une, et il y en aura d'autres. Elle devrait réfléchir à des zones de libre-échange davantage structurées, elle devrait réfléchir peut-être pas dans certains domaines à une monnaie commune, mais à des monnaies qui fluctuent dans un certain nombre de serpents. Ça permettrait de, comme on l'a fait au début du système européen, ça permettrait de repérer les économies qui veulent travailler sérieusement. En tout cas, beaucoup de pays africains arrivent aujourd'hui à se financer sur les marchés internationaux. Enfin, je terminerai en disant que dans l'énergie, on est qu'au tout début de l'utilisation en Afrique pour résoudre le problème électrique, à une dimension qui évitera de faire de très lourdes infrastructures, parce que ce sont des systèmes suffisamment locaux et décentralisés. Je pense à l'énergie solaire et au système voltaïque, qui, je pense, a un énorme avenir en Afrique.
Amadou Kane évoquait dans l'interview qu'on a entendu il y a quelques minutes la capitalisation boursière africaine, encore minime par rapport aux autres régions du monde. Plus généralement, Jezabel Coupet-Soubeyran, est-ce que le système financier et bancaire mondial a aujourd'hui totalement récupéré de la crise de 2008? Est-ce qu'on est sorti d'affaires ou est-ce qu'il y a encore des menaces?
Oh non, je crois qu'on n'est pas du tout sorti d'affaires. Alors, il y a eu effectivement des réformes menées, bien sûr, aux États-Unis, dans la zone euro, au Japon, un peu partout. Mais je crois qu'il y a encore, si vous voulez, de grands facteurs de fragilité financière. Je crois qu'on n'a pas complètement assaini le secteur bancaire et financier en Europe. Et il me semble aussi que ce secteur bancaire et financier ne rejoue pas encore complètement le rôle qui devrait être le sien, c'est-à-dire un rôle de propulseurs, de financeurs, des investissements. Voilà, on a des banques dans la zone euro qui sont encore très tournées vers elles-mêmes, vers les marchés financiers, qui financent assez peu les entreprises, et en particulier les petites entreprises qui ont foncièrement besoin des banques pour se développer. Donc on a de gros facteurs de fragilité. On l'a bien vu, le système financier, en particulier bien les marchés boursiers aux États-Unis comme en Europe, ont été très fiévreux depuis le début d'année. Et puis on peut avoir, si vous voulez, quand même le sentiment d'une déconnexion très grande entre la sphère financière et puis la sphère réelle. Je crois justement, si on en revient un petit peu à l'Afrique, qui a un énorme défi en termes de développement financier, il faudra que ces pays sachent tirer les leçons du passé, les leçons qu'auraient dû tirer les économies avancées. Ils vont devoir poursuivre leur développement financier, mais vraiment en essayant de l'accompagner d'une régulation forte, en le maîtrisant, de façon à ce que le système financier reste au service de l'économie réelle et que ça ne devienne pas une sphère qui tourne sur elle-même et qui s'auto-entretient.
Déconnexion du système financier de l'économie réelle.
Alors, un mot d'abord. Bon, il reste quand même une zone où il est intéressant de voir en Asie le ramibi, c'est-à-dire la monnaie chinoise, non pas devenir une vraie monnaie de transaction, mais quand même beaucoup de transactions se font en ramibi et non plus en dollars ni en euros. Ça, c'est très intéressant pour montrer la domination économique chinoise dans toute cette zone de l'Asie, ce qui est d'ailleurs son objectif principal, car la Chine n'a pas un objectif mondial, elle a l'objectif de dominer l'Asie du Sud-Est. En ce qui concerne par contre les réalités, nous allons vivre un moment maintenant, dans les 15 jours qui viennent, dans les 3 semaines, extrêmement important. Je pense pour ma, de toute façon que la Grèce va faire défaut. Alors ça va être une première étape. Comment va se vivre un défaut grec? Qu'est-ce qui va se passer? Je le crois parce que tout le monde a le sentiment que si on le redonne de l'argent, rien ne changera. Et qu'on va se retrouver dans la même situation 3 mois, 4 mois, 6 mois après. Parce que la Grèce, pour l'instant, n'a pas mis en place les éléments de réforme qui permettraient de dire que ça va pas recommencer. Alors, je pense que la Grèce a de fortes chances de faire défaut. Comment ça va se faire? Et est-ce qu'il y aura sortie de la Grèce du l'euro? Ça, c'est très important parce que symboliquement et pratiquement, ça permet aussi de suivre ce que veut dire sortir de l'euro. Comment ça se fait? Qu'est-ce que ça passe? Quelles sont les conséquences? Et évidemment, la façon dont est-ce que le système européen, voire mondial, va être, comme à l'époque de Lehman Brothers, complètement, bouleversé, secoué. Personnellement, je crois que ces phénomènes vont se produire, c'est-à-dire qu'il y aura défaut de la Grèce, la sortie de l'euro, sans doute, et qu'il n'y aura pas le même choc. Il n'y aura pas le même choc parce que la solidarité a été mise en place, parce que les banques sont mieux capitalisées, parce qu'il y aura intervention de la Banque centrale d'une façon beaucoup plus immédiate et volontariste, parce qu'il y a des fonds qui sont des fonds de stabilisation qui pourront stabiliser l'ensemble du système. Mais je crois qu'on va vivre vraiment dans les 15 jours et ensuite les 2 mois après, un moment extrêmement important européen dans le domaine financier.
Isabelle Coupet-Soubéran, vous êtes d'accord?
On
va vers un Grexit?
Oui, enfin, je suis assez d'accord avec l'idée que le scénario le plus probable, c'est le scénario du défaut. Je crois que c'est terrible. Je crois que ça n'honore pas du tout les gouvernements des pays européens. Je crois qu'on n'est pas à la hauteur du message initial de l'Union européenne, qui était un message de paix, un message d'unité. Là, eh bien, on fait tout le contraire. Symboliquement, on est en train finalement de pousser vers la sortie le berceau de l'Europe. Moi, je trouve ça terrible. Après, ça va créer forcément une secousse. Alors, même si les marchés anticipent depuis un petit moment ce défaut grec, ce sera pas une surprise. C'est anticipé. Pour autant, je pense que ça va quand même, si vous voulez, catalyser un certain nombre de difficultés. Ça va poser des difficultés énormes au niveau bancaire et financier en Grèce. Est-ce qu'on sera capable d'activer correctement les mécanismes de résolution qui ont commencé à se mettre en place dans le cadre de l'union bancaire? On verra, parce que en plus, eh bien, suite à ce défaut, vous l'avez dit, la Grèce va probablement donc sortir de la zone euro, abandonner l'euro. Sera-t-on capable de bien organiser le mécanisme de résolution? Voilà, pour un pays qui n'utilisera plus la monnaie européenne, pas certain.
Permettez juste un dernier mot là-dessus. Je pense que la situation grecque, à la suite de ça, va être extraordinairement mauvaise, dramatique
pour la population.
Pour la population, mais que c'est au fond les choses fausses que leur ont dit le parti de Tsiras. C'est-à-dire que la preuve pourra être faite qu'il est préférable de faire la réforme plutôt que de faire défaut. C'est-à-dire que les voies très difficiles, mais qui ont été suivies par le Portugal, par l'Espagne et par l'Irlande, par exemple, sont moins dramatiques que la voie que la Grèce va choisir de faire défaut.
On y reviendra dans une prochaine émission. Cet écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI. Nous établissons le bulletin de santé de l'économie mondiale avec deux invités, Isabelle Coupet-Soubéran et Jean-Louis Beffa. Tout à l'heure, nous parlions brièvement matières premières africaines. Le cours des matières premières a baissé, surtout le pétrole. C'est une bonne affaire pour les pays consommateurs comme la France. Les États-Unis sont un des grands artisans de cette baisse grâce à leur exploitation du schiste. Le pays est même devenu le premier producteur mondial d'or noir. Et pourtant, aux États-Unis, ce n'est pas l'euphorie. Reportage Éco d'ici, Éco d'ailleurs, signé Marie Bourreau à New York.
Ces derniers mois, les Américains ont souvent entendu ça.
L'industrie automobile est la preuve que n'importe quel comeback est possible. Les voitures les plus avancées en technologie, les moins consommatrices en carburant et les mieux conçues au monde sont de nouveau créées et fabriquées, non pas en Europe ou en Asie, mais ici aux États-Unis d'Amérique.
Cet optimisme affiché de Barack Obama n'est pas totalement sans arrière-pensée. Aux États-Unis, l'industrie automobile est perçue comme un bon indicateur de la croissance. Et avec 17 millions de ventes de véhicules neufs attendues en 2016, les signaux sont au vert. Ajoutez à cela un prix du pétrole très bas, à moins de 1 dollar le litre, et vous avez tous les éléments d'une reprise. Jeff est coiffeur, à 35 dollars le plein, il avoue utiliser sa voiture bien plus souvent, car quand il sort sa calculette, le constat est simple.
J'ai décidé d'aller en Floride sur un coup de tête et en voiture parce que quand j'ai regardé le prix des billets d'avion, c'était beaucoup plus intéressant de prendre la voiture du fait du prix de l'essence.
Mais cet enthousiasme est plus tempéré chez les concessionnaires.
Mon nom est Angel Cruz. Je travaille pour l'entreprise Axis Group à Jersey City dans le New Jersey. Je suis vendeur et je suis là pour aider les clients à choisir une voiture.
Niché juste sous un nœud périphérique, l'entreprise d'Angel Cruz fait tout pour attirer de nouveaux clients. Des dizaines de ballons bleus gonflés à l'hélium ornent la devanture du magasin et de grands panneaux indiquent qu'on parle aussi espagnol. Et pourtant,
maintenant, on ne prend que des rendez-vous car plus personne ne vient au hasard comme c'était le cas il y a 10 ans. C'est très rare d'avoir un client qui traîne. Il y a 10 ans, on vendait jusqu'à 100 voitures par mois. Maintenant, on en vend 30, 40 maximum à cause de l'économie.
Et quand ils en vendent, les clients ont une idée bien précise.
Ils n'achètent plus ce qu'ils veulent, mais ce qu'il leur faut, c'est-à-dire une voiture pour aller au travail et qu'ils n'aient pas de soucis avec.
Pour ça, ils achètent
Toyota, Honda, du solide, pas des américaines.
La récession de 2009 est encore dans toutes les têtes et les consommateurs américains ont appris la prudence au risque de faire caler l'industrie automobile nationale malgré l'insistance du président Obama pour y voir un signe de la croissance.
C'était un reportage signé Marie Bourreau, New York, Jean-Louis Beffa. Est-ce que l'économie américaine, on a du mal à comprendre où elle est réellement?
L'économie américaine s'est quand même très bien redressée avec un certain nombre de résultats positifs en effet sur ses coûts de l'énergie, positifs sur surtout la baisse du chômage, ça c'est fondamental, mais dans un climat d'inégalité sociale qui s'est considérablement accru. C'est-à-dire que les États-Unis ont augmenté de façon fantastique la richesse des plus riches et ont pas significativement, voire même baissé, la situation des plus pauvres. Et ceci est accepté, même si ça en trouve un certain nombre, évidemment, de conséquences économiques, sectorielles que l'on voit. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours le rêve américain, le rêve de l'immigration, le rêve du Mexicain qui franchit la frontière et qui pense que s'il a une idée géniale, il sera parmi les super riches. Le rêve américain est le moteur d'un système qui, sinon, à mon sens, pourrait apparaître comme avec un risque de déséquilibre très important dans cette inégalité de revenus.
Isabelle Coupé-Souberan, vous êtes optimiste pour l'évolution de l'économie américaine? Est-ce que le dollar fort ne la pénalise pas?
Je suis modérément optimiste. Ce qu'on peut mettre en avant, c'est que les États-Unis ont mené une politique économique face à la crise très différente de celle qui a été menée en zone euro. Une politique monétaire ultra accommodante, mais également des taux d'intérêt au plancher, et puis de gros programmes d'achat d'actifs hein, sur les marchés financiers qui ont permis de soutenir ces marchés, de faire baisser les taux d'intérêt à long terme, et ainsi eh bien de stimuler un petit peu l'investissement. Ce que je voudrais mettre en avant, si vous voulez, c'est que la politique monétaire a été ultra expansionniste, mais il y a eu quelque chose qui a sérieusement manqué en Europe. C'est également une politique budgétaire très expansive, un plan d'aide massif, le fameux plan Paulson, qui s'est étendu à l'industrie et notamment à l'industrie automobile, dont on parlait dans votre reportage. Donc, il y a eu, si vous voulez, une réponse de politique économique très forte. Pour autant, je crois que la croissance américaine aujourd'hui reste quand même, me semble-t-il, hein, encore assez artificielle. Ce qu'on constate là aux États-Unis, c'est une forte hausse des prix de l'immobilier. 25% de hausse entre 2012 et 2014. On est peut-être en train, si vous voulez, d'assister aux États-Unis, et c'est le cas aussi d'ailleurs au Royaume-Uni, au retour des bulles immobilières. Et on est toujours, en fait, face à des économies qui sont boostées aux bulles. C'est-à-dire que soit elles sont à plat, soit quand ça remonte, eh bien, c'est simplement tiré par des bulles immobilières ou par des bulles financières. C'est dramatique.
Artificialité de la reprise américaine, sur le BFA.
Moi, je suis un peu plus optimiste. Il y a les questions de fond. Il y a quand même tout ce monde Internet qui se développe. Il y a un système d'innovation qui est extraordinaire. Par contre, sur l'immense différence entre la politique américaine et la politique européenne, on voit bien combien la volonté d'atteindre des chiffres faibles de déficit budgétaire à trop court terme est totalement catastrophique pour l'Europe. On a fini par faire une politique que l'on n'a pas fait au début, monétaire accommodante, avec les dernières décisions de Draghi, les rachats. Mais l'obsession de l'équilibre budgétaire, non pas qu'il ne faut pas le viser, mais qu'on le vise avec des calendriers qui sont aberrants, nous ont coûté et continuent à nous coûter extrêmement cher.
Alors, Jean-Louis Beffa, vous évoquiez tout à l'heure les inégalités dans l'économie américaine. Bien que la faim recule massivement dans le monde, les inégalités se développent beaucoup. Écoutez ce qu'en dit Caroline Doré-Musmège, directrice du plaidoyer de l'ONG CCLT Terre Solidaire que j'ai rencontrée.
On constate qu'en valeur absolue, la pauvreté recule, mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est la montée des inégalités dans le monde. Et ces inégalités, c'est aussi bien entre les pays que à l'intérieur même des pays. Cette pauvreté, elle se retrouve maintenant plus seulement dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays du Nord. Tous, au niveau mondial, on est confrontés à cette montée des inégalités et de l'exclusion.
Et à quoi attribuez-vous cette montée des inégalités ?
On a un système économique qui est aujourd'hui fondé sur la croissance et sur la recherche du profit, un peu comme le but ultime. Et pour nous, ce système-là est générateur d'inégalités et d'une répartition des richesses inéquitable.
Ces inégalités, elles se manifestent comment ?
Ces inégalités, elles se manifestent par le fait que de plus en plus de personnes sont exclues du développement de manière générale, de l'économie de manière générale, et ont de plus en plus de mal à vivre avec le système dans lequel on est aujourd'hui. Donc la question de la croissance comme le but ultime ne semble pas être la réponse pour sortir les gens de la pauvreté, etc. Toutes les mesures qui ont été mises en place ces dernières années, on a bien vu qu'elles conduisaient à plus d'exclusion des populations qui ont du mal à trouver un travail décent, qui ont du mal à faire respecter leurs droits, et qu'on arrive sur un système économique à deux vitesses entre ceux qui peuvent s'en sortir et ceux qui sont laissés sur le bord du chemin.
Vous diriez que la planète économique aujourd'hui est plus inégalitaire qu'elle n'était il y a 30 ans ?
Nous, on a effectivement ce sentiment-là.
Jézabel Coupet-Soubeyran, c'est un problème, ces inégalités, pour la stabilité économique et financière du monde ?
Bien sûr, c'en est un, et je crois qu'on s'en rend compte de plus en plus, et il faut saluer d'ailleurs les travaux de Piketty, qui ont largement... ces travaux ont largement contribué à placer ce débat sur le devant de la scène, y compris aux États-Unis, où, Jean-Louis Beffa le rappelait, la tolérance pourtant vis-à-vis des inégalités, la tolérance de la société vis-à-vis des inégalités est plus forte. Dans la publication annuelle du CEPI dans l'économie mondiale, ce qu'on va essayer de mettre en avant, c'est que la montée des inégalités est en partie liée à la finance. D'accord, en partie lié à l'expansion du secteur bancaire et financier. Quand on regarde en fait la progression des inégalités, on se rend compte que ça provient assez largement de la progression des très hauts revenus, des 1%. Des plus riches. Et où les trouve-t-on ces très très hauts revenus ? Eh bien dans le secteur financier, c'est-à-dire que le développement, le surdéveloppement du secteur bancaire et financier a largement contribué, si vous voulez, à cette progression des très hauts revenus, parce que le secteur financier a distribué des revenus astronomiques bien supérieurs à ceux qui sont versés dans l'industrie. Et il y a également un autre lien à faire, c'est que eh bien, lorsque la population s'appauvrit dans un pays, ou lorsque le pouvoir d'achat des classes modestes stagne, comment fait-on pour éteindre la grogne sociale? Eh bien, on distribue du crédit, on facilite l'accès au crédit. Et vous voyez que il y a des liens entre finance et inégalité qui vont vraiment dans les deux sens.
Jean-Louis Beffa, le mot de la fin.
Oui, bien, moi je crois bien sûr que il faut qu'il y ait, pour qu'il y ait moins d'inégalités, il faut qu'il y ait évidemment plus de croissance, même si il faut faire les rectifications dont vous dites, et les chiffres américains mériteraient par exemple d'être taxés beaucoup plus pour les plus riches, mais fondamentalement, je trouve que la raison est au niveau du marché du travail. La rigidité du marché du travail est en France, et le fait que donc du coup nous ayons le chômage qui est directement associé à l'absence de flexibilité du travail français, je trouve que nous avons là une source considérable de développement des inégalités. Ce que je veux dire, c'est qu'en ne faisant pas, ce n'est pas en faisant des transferts de revenus pour compenser le non-travail qu'on arrivera à trouver des solutions. Ces solutions seront toujours plus coûteuses, et en plus, humainement, les gens qui ne travaillent pas seront dans une situation dans laquelle leur niveau de pauvreté sera encore plus douloureux à supporter. La première réforme à faire, c'est de rendre le travail français plus flexible. Le jour où nous aurons déjà résolu ce problème-là, je crois que nous aurons fait le premier pas le plus important pour la réduction des inégalités dans notre pays.
Merci Jean-Louis Beffa, merci Jezabel Coupet-Souberan d'avoir participé à cette émission qui est maintenant terminée. Guillaume Munier et Ludivine Amado étaient à la réalisation. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure économique où nous parlerons de la France.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.